Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Ce mardi, chronique spéciale des Clés de l'écho pour le 8 mars, nous sommes avec Marie-Claude Bergouignan. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Claude, vous êtes professeure honoraire de sciences économiques à l'Université de Bordeaux, également membre d'Espace Marx. Alors, dans le domaine économique, la lutte pour l'égalité homme-femme est loin d'être achevée. Quelles sont, pour vous, les revendications prioritaires dans ce domaine-là ?
Oui, alors il me semble qu'elles sont très importantes. Je pourrais dire qu'on est en quelque sorte en panne. Donc, il faut, à mon sens, lancer ce que j'appellerais un Grenelle de l'égalité salariale. Et en fait, les inégalités font système, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée d'augmenter les salaires, par exemple, qui va suffire, ce qui est un petit peu l'idée qui court actuellement. Donc l'idée, c'est d'instaurer une véritable justice salariale. Et en particulier, ce qui importe, c'est déjà de faire apparaître que l'égalité n'est pas réalisée. En particulier, il faut lutter contre ce que j'appelle le féminisme washing.
Qu'est-ce que c'est le féminisme washing ?
Oui, c'est un néologisme. Signifie simplement qu'il faut dénoncer les entreprises qui affichent quelque part qu'elles respectent l'égalité salariale entre hommes et femmes, par exemple, qu'elles respectent les promotions, mais en réalité ne le font pas. C'est un petit peu l'équivalent du greenwashing dans le domaine de la publicité écologique, faussement écologique. Donc l'idée, c'est aussi de montrer qu'en France, l'égalité hommes-femmes et ce qu'on appelle le féminisme institutionnel ne suffit pas, en fait. Et donc, il faut que les choses changent en profondeur, si possible. Donc, en premier lieu, par rapport à cette idée, donc, disons que lutter contre le féminisme washing, c'est d'une certaine manière lutter sur le plan idéologique. On peut considérer aussi qu'en deuxième lieu, il faut déjà appliquer des lois, parce qu'il y a pas mal de lois qui existent sur le plan de l'égalité homme-femme. Alors, la première, c'était celle de 1972, qui préconisait un travail égal, salaire égal. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. En 1983, une nouvelle loi apparemment posait un progrès, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dire un travail de valeur égale, salaire égal. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes professions et en réalité, il faut trouver une manière de générer des équivalences entre les compétences respectives dans les différents métiers pour, en effet, trouver un cadre réel de comparaison. La loi de 83, en effet, représentait un progrès en un sens, mais les écarts salariaux persistent. On en est là avec une nouvelle loi en 2018 qui porte le nom de loi Avenir professionnel. Alors, cette loi comporte certains articles qui concernent l'égalité salariale entre hommes et femmes.
Et en quoi ils consistent ces articles-là de cette loi donc de 2018 ?
Alors, il s'agit d'instaurer des indicateurs, en fait, un suivi d'indicateurs, et ce qui dit suivi dit aussi contrôle. Alors, en gros, de quoi s'agit-il ? Ben, les entreprises d'au moins 50 salariés ont obligation depuis 2019 de publier chaque année des indicateurs concernant les écarts de rémunération et les actions réelles mises en place dans l'entreprise pour supprimer ces inégalités. En principe, ceux qui ne respecteront pas le principe d'égalité vont se voir appliquer des pénalités d'ordre financier, en principe. Alors, en quoi consistent les indicateurs ? On peut être un petit peu plus précis. Il y a d'abord la suppression des écarts de rémunération entre hommes et femmes, en considérant les postes occupés et évidemment la question est celle des postes équivalents et en considérant aussi les tranches d'âge. Deuxième critère, c'est la chance d'avoir une augmentation de salaire pour les femmes et les hommes. Le troisième critère, la chance d'obtenir une promotion au sein de l'entreprise. Quatrième critère, l'augmentation de salaire garanti au retour de congé maternité. Alors ça, c'est quand même un gros point, parce qu'en général, les congés maternité sont plutôt pénalisants pour les femmes au retour de ce congé. Et enfin, le dernier critère, c'est celui de la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations dans l'entreprise. On en est là. Apparemment un progrès, mais en réalité, là aussi, des obstacles. puisque on n'a pas accès aux modalités de calcul en interne, c'est-à-dire que l'entreprise fait sa petite sauce, comme on peut dire, mais sans forcément avoir obligation de dire la manière dont elle a procédé. Et puis, en deuxième lieu, il y a une marge de tolérance importante. Bon, alors, ça peut se justifier aussi, puisqu'il s'agit d'aider, en fait, à la progression et pas, au contraire, bloquer les situations. Alors, ce qu'on peut remarquer, quand même, c'est que les entreprises du CAC 40 ont obtenu pratiquement la note maximale. La note maximale, c'est 100. Et donc, la plupart des entreprises du CAC 40 ont obtenu la note de 90 points. Bon, ça laisse un petit peu rêveur. On ne sait pas trop ce que ça va donner en réalité.
Oui, alors que les inégalités hommes-femmes, elles sont au cœur de leur modèle à ces entreprises-là du CAC 40.
Bah, c'est ça. Et alors, il y a aussi, les obligations vont porter aussi sur des entreprises qui sont de plus petite taille. Alors, en effet, ça représente quand même une masse d'entreprises. Donc, si un suivi est fait correctement fait, on peut peut-être espérer que ce soit incitatif, en tout cas. En ce qui concerne toujours ce Grenelle de l'égalité salariale, disons, moi je pense aussi qu'il faut se pencher plutôt sur la question des métiers féminisés, puisque bon, on constate encore à l'heure actuelle que les femmes sont concentrées plus de 80% dans 12 familles professionnelles, bon, qui sont les moins rémunératrices, et qui sont celles où les conditions de travail sont les plus difficiles et fatigantes. Donc, parmi tous ces métiers, il y a évidemment tous les métiers de l'accompagnement, comme on dit, et puis les métiers de la santé aussi. On a là quand même une situation qui est très, très pénalisante pour les femmes et avec, en fait, peu d'espoir d'évolution. Quelques chiffres. En 2018, 26% des femmes en emploi sont sur des postes d'employés ou d'ouvriers non qualifiés. Pour les hommes, le pourcentage est de 15%. Si on considère les cadres, on est à 16% pour les femmes, pour 21% pour les hommes. Donc, en fait, résorber l'écart salarial, ça veut dire se pencher sur l'insertion dans les activités plus que s'occuper essentiellement de remonter, par exemple, donner un coup de pouce au SMIC ou autre mesure de ce type.
Cet écart salarial entre les hommes et les femmes, il en est où actuellement en France ?
Alors, hélas, il stagne. disons qu'il régresse très peu. D'après les mesures de l'INSEE là, les plus récentes, on en est encore à 24% globalement. Et cet écart n'a pratiquement pas régressé depuis 40 ans, c'est-à-dire quand même que depuis que la période de crise a été amorcée, on n'a pas observé de régression de l'écart, très peu en fait. Et il y a une petite étude qui est amusante, enfin, si l'on peut dire. La Confédération européenne des syndicats considère que depuis 2010, l'écart se réduit tellement peu qu'il faudrait pratiquement plus de 1000 ans pour parvenir à l'égalité salariale en France. C'est-à-dire que en fait, ça donne une image un petit peu de la tâche à entreprendre et le fait que finalement, on ne s'est pas vraiment peut-être attaqué à la question. En dehors de la revalorisation des métiers féminisés, je crois aussi qu'il y a une mesure importante qui devrait suivre, c'est celle de la lutte contre le temps partiel contraint. Alors, qu'est-ce que ça signifie, temps partiel contraint ? Les femmes travaillent davantage à temps partiel que les hommes. Et en réalité, ce temps partiel résulte souvent d'interruptions d'activité et souvent liées aux maternités. Donc, ces interruptions sont plus fréquentes. Et pour donner un ordre de grandeur, en France, actuellement, elles travaillent plus de 4 fois plus souvent à temps partiel que les hommes. Donc, temps partiel, pour la plupart, qui est un temps non choisi. Et alors, ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'en plus de tout cela, le recours au temps partiel augmente avec le nombre d'enfants à charge. Donc, on a là une espèce d'équation qui accroît les inégalités. Cela signifie qu'il faut réellement penser une réduction du temps de travail. Là aussi, c'est une mesure complémentaire qui va avec l'idée de la revalorisation et de la lutte contre le temps partiel contraint.
Et qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que le temps de travail ferait pour ce rééquilibrage?
Il s'agit en fait de rééquilibrer le travail non rémunéré au foyer avec le travail social, disons, dans la vie sociale. Pourquoi? Parce que c'est un rééquilibrage en termes de temps et de charge de travail qui permettrait aux femmes de pouvoir être davantage impliquées dans tous les aspects de la vie sociale, y compris la vie culturelle ou éventuellement politique et syndicale. Parce que quand même, il y a un aspect, on reproche souvent aux femmes d'être moins syndiquées, mais disons que ce temps n'est pas un temps de loisir à proprement parler, mais c'est du temps quand même qui pourrait être libéré si le temps de travail domestique était moindre, disons, il y aurait effectivement un peu plus de temps aussi pour être plus davantage socialisé. Voilà. On peut considérer même que les femmes sont les variables d'ajustement sur le marché. On continue à être des variables d'ajustement sur le marché du travail. Et donc, ce qu'on appelait la double journée de travail n'a pas réellement régressé, certes, un peu moins d'heures passées, mais pas tellement, en fait, là aussi, au cours du temps. Alors, ça signifie aussi davantage de services publics, prise en charge des enfants, moins de prise en charge des personnes dépendantes, parce que là aussi, c'est souvent les femmes qui gèrent cette dépendance, ou en grande partie. Et bien sûr, tout cela pointe les insuffisances de notre système de santé, à sa régression même, la régression aussi du système de santé et du système d'éducation, parce que c'est peut-être aussi lié. Donc on en est là. Depuis le début de la crise sanitaire, on fait semblant de croire que télétravailler, c'est facile et qu'on peut garder les enfants tout en télétravaillant. On sait très bien qu'on a même des travaux qui ont montré que la charge mentale s'était accrue considérablement. Alors pour terminer, je voulais indiquer un autre élément qui concerne quand même la place des femmes dans la technologie. Pourquoi? Parce que les filles, on le sait, réussissent mieux à l'école, ont des performances plus importantes, dans le cadre scolaire. Mais en réalité, elles sont orientées souvent des filières qui sont plus généralistes. Ceci dit, dans l'enseignement supérieur, elles sont aussi relativement plus diplômées même que les hommes, en tout cas dans certaines filières. Mais ça ne suit pas. C'est-à-dire que là, il y a un grand souci même qui apparaît même au niveau mondial. On a prévu qu'en fait, la numérisation, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies vont contribuer en fait à la disparition de nombreux métiers, de nombreuses tâches qui sont souvent peu ou moyennement spécialisées. Et elles vont porter essentiellement sur des emplois qui sont occupés par des femmes. Donc on a ici un risque de perte d'emploi très important.
On pense notamment aux caissières. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça et pour briser ce plafond de verre?
Alors, c'est un vaste programme, mais on peut prévoir un certain nombre de pistes qui ont d'ailleurs été tracées dans le cadre des programmes de l'ONU au niveau mondial. C'était quand même une préoccupation extrêmement importante. Alors, la première idée, c'est peut-être l'idée de combler le fossé numérique. Bon, ceci dit, comment? Déjà, dès l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire, développer une éducation, alors je dirais féministe, en tout cas au sens de égalitaire, c'est-à-dire qui permette de lutter contre les stéréotypes hommes-femmes, par exemple, et donner la possibilité donc d'ouvrir sur d'autres parcours professionnels, parce que les parcours scolaires et professionnels pour les filles en fait se rétrécissent, c'est-à-dire que hyper-concentration dans l'éducation donne aussi hyper-concentration dans l'emploi. Une autre idée, c'est de faciliter les transitions professionnelles, c'est-à-dire de permettre une forme de mobilité qui est certes souhaitée, mais qui ne se réalise que peu. Les promotions, quoi encore les reclassements, parce que s'il y a perte d'emploi, il y aura sans doute programmes et de sociaux et plans sociaux, mais donc derrière, il faut qu'il y ait forcément des dispositifs, disons, qui permettent de faciliter au moins ces transitions. pour les femmes, on peut imaginer que pour l'instant, en fait de transition, il n'y a que le passage d'une profession dévalorisée à une autre profession dévalorisée. Et si elles sont moins nombreuses en pourcentage, on peut réellement tomber sur un grave problème. Enfin, bon, dernier élément qui n'est pas le moindre, ça serait l'idée de développer la parité dans les postes qualifiés, dans les postes de direction, parce que là aussi, ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est que les femmes sont certes davantage cadres, sont davantage créatrices de start-up, par exemple, dans des professions hyper technologiques, il y en a, mais de toute façon, dès que la start-up se transforme en entreprise plus importante, ou dès que les situations sont en effet évolue, bon, la place des femmes, elle est moins importante et carrément régresse.
Merci beaucoup Marie-Claude Bergouignan pour cette chronique spéciale des Clés de l'écho sur le 8 mars. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire de sciences économiques à l'Université de Bordeaux et notamment membre d'Espace Marx. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Spectre.